Chapitre 25 Ailleurs. Quand le professeur Lolnes était enfant, il y avait dans sa région des rameaux du Nord une vieille boule de gui abandonnée qu'on appelait Saïpur. Longtemps auparavant, on y avait construit une petite auberge. Les gens des branches voisines venaient y passer de courtes vacances parce qu'on disait que l'air était plus pur à Saïpur. Un accident obligea brutalement les touristes à déserter ce lieu. C'était un terrible fait divers. Une fauvette avait avalé une famille entière, les Astona et leurs deux enfants. L'auberge Saïpur ferma. On pleura beaucoup, mais on retrouva quelques jours plus tard la famille Astona au complet, saine et sauve, à l'autre bout de l'arbre. Personne ne sut jamais ce qui leur était arrivé. Eux-mêmes ne se souvenaient de rien. Saïpur tomba malgré tout dans l'oubli. Le petit Sim Lolnes n'aimait pas trop l'aventure. Son ami, Zev Clarak, non plus. Mais il y avait un troisième larron dans la bande, El Blue, le père de Léo. Celui-ci, à 9 ans à peine, sautait sur toutes les occasions de risquer sa vie. Il avait donc entraîné Zef et Sim dans le labyrinthe de Saïpur, qui devint leur domaine. Il faut imaginer les trois jeunes garçons passant leur dimanche dans la boule de gui, alors que leurs parents les croyaient chez un vieux professeur qui les aidait à faire leurs devoirs. Le soir, quand ils rentraient, ils montraient tous les trois leur cahier noirci d'une fine écriture. Le travail était parfaitement fait. Le professeur Bigfor devait être un merveilleux pédagogue. Jeune Zef parlait longuement à ses parents de ce vieux Bigfor qui lissait sa moustache entre ses doigts et les appelait par leur nom de famille, Clarak, Blue et Lolnes. Depuis qu'il était à la retraite, racontait Zef, tout le plaisir de Bigfor était d'aider les enfants à progresser. Il n'avait qu'une seule règle. Il ne voulait pas entendre parler des parents. Zef imitait la grosse voix de Bigfor. « Des parents ?» J'en ai trop vu dans ma vie. Si j'en vois un seul, j'en fais du pâté. » Les parents Clarak tremblaient en entendant ces mots. Zef savait déjà impressionner son public. Beaucoup de candidats voulurent confier leurs enfants au dimanche du Bigfor, mais les trois garçons expliquaient à regret que le vieil homme ne prenait plus de nouveaux élèves. Arrivés à Saïpur chaque dimanche, à 9 heures, Clarak et Blue donnaient leur cahier à Sim, qui en une petite heure à peine faisait sur ses genoux les devoirs des trois. Il n'y avait jamais eu dans l'arbre le moindre professeur Bigfor. À 10 heures, le travail était achevé. La journée leur appartenait. Clara crévassait. Blue jouait avec son boomerang. Et Sim observait le monde, progressant pas à pas sur ses dossiers en cours. Parfois, El Blue emmenait ses deux amis regarder les oiseaux gigantesques qui dévoraient les fruits du gui. Sim et Zef se tenaient à distance. Sim découvrit la fauvette à cette occasion. Cet oiseau a sur la tête une tache noire qui ressemble à un béret. C'est donc pendant les dimanches de Bigfor que Sim écrivit, à l'âge de 9 ans et demi, un petit texte illustré sur la fauvette à béret. Il conserva toujours ce premier ouvrage et adopta jamais le béret comme couvre-chef. Les fauvettes, beaucoup plus petites que les grives, n'avalaient jamais les fruits sur place. Elles les prenaient dans leur bec et disparaissaient. Tout le travail de Sim consista à réfléchir à ce que les fauvettes faisaient des fruits qu'elles emportaient. Ainsi comprendrait-il peut-être le mystère de la famille Astona. Il lui fallut plusieurs dimanches pour oser s'approcher d'une de ces grosses sphères blanches et prendre les mesures indispensables. Après bien des calculs, une conclusion s'imposa. La fauvette à béret aurait été incapable de manger le fruit en entier. La taille du bec ne permettait pas d'avaler la partie dure du fruit, ce noyau allongé qui était au centre enveloppé de chair tendre. Cette constatation fit beaucoup réfléchir le chercheur en herbe. À l'époque, déjà, l'obsession de Sim était de savoir s'il y avait une vie en dehors de l'arbre. Or, pour grignoter habilement le fruit sans avaler le noyau, il fallait que la fauvette se pose. Et puisque Sim ne voyait jamais de fauvette perchée dans l'arbre, où se posait-elle? C'est durant les dimanches de Bigfort que Sim mit en place sa théorie du perchoir. Comme il n'osait pas encore dire qu'il y avait peut-être d'autres arbres, il parlait de perchoir. En conclusion de son livre sur la fauvette à béret, il disait que quelque part dans l'univers, en dehors de l'arbre, il existait d'autres perchoirs. Qui sait à quoi ils ressemblent? Ce sont d'autres territoires où les fauvettes se posent, raclent les baies du gui et abandonnent les noyaux. 2 ans plus tard, au creux de l'hiver, la boule de gui de Seipur tomba. C'était un 31 décembre à minuit. On décida alors, face au danger, de couper toutes les autres boules de gui de l'arbre. Seul demeura Tomble, qui fut aménagé en prison. Le dimanche suivant, quand Elblouz, Zef, Clarak et Simlolnes découvrirent que leur petit monde s'était évanoui, ils rentrèrent en pleurant chez eux et annoncèrent partout que le professeur Bigfort était mort. Toby n'avait jamais lu l'étude de son père sur la fauvette à béret. Si bien qu'en embarquant dans le bec accroché au noyau de la baie, il se pensait promis à la mort. Et pour lui, c'était un soulagement. Le fruit du gui est une baie blanche, mais c'est une baie vitrée. De tous côtés, la lumière jaillit. Le spectacle aérien que Toby découvrit devait être l'antichambre du ciel. Ce fut pour lui une expérience limite, une vision nouvelle du monde. Tout à coup, au cœur de cette baie vitrée, il voyait la vie de plus haut, et tout lui paraissait plus ample, plus lumineux. Mais, au-dessus, la pureté violette du ciel, traversée de nuages bleus nuit, et, en dessous, un monde horizontal sans fin, dont il ne garda qu'un souvenir en vert et brun, une sorte de rêve d'immensité, comme si l'arbre était posé sur un autre arbre, infiniment plus grand. Toby serrait le noyau dans ses bras. Autour de lui tournoyait le paysage au rythme du battement d'ailes de la fauvette. Il se sentait partir, de moins en moins conscient de son corps. Combien de temps dura ce vol? Peut-être une éternité. Il s'acheva par quelques boucles virevoltantes où Toby perdit entièrement la notion des choses. Une chanson? Une petite chanson sans parole? 5 ou 6 notes qui revenaient chanté par une femme. Et puis, la chaleur, un bain de chaleur et d'humidité. Toby ouvrit les yeux. Quelques pas, un peu plus loin, il y avait une femme en train de recoudre une chemise. Toby reconnut sa chemise de toile. Il était torse nu dans la boue. Il essaya de prendre appui sur ses mains pour se redresser, mais ses poignets étaient attachés ensemble. Ses chevilles ne répondaient pas non plus. Il appela. La femme arrêta sa chanson et tourna la tête vers lui. Le visage de cette femme fit tressaillir Toby. Elle avait des traits étranges et familiers à la fois. Elle sourit paisiblement. Puis, baissant les yeux, elle reprit son petit air répétitif. Toby laissa ses notes calmer sa peur. Il regarda autour de lui. Le paysage ne ressemblait à rien qu'il connaissait. Une forêt verte, plus haute que toutes les forêts de l'arbre. Ce n'était pas un bosquet de mousse. C'était une forêt 100 fois plus haute, et chaque tige d'herbe, effilée, semblait monter jusqu'au ciel. La lumière circulait dans cette jungle dont les sommets ondulaient au vent. Que faisait-il là? Il mit au clair ses derniers souvenirs. L'arbre, l'oiseau, le ciel, c'était comme un rêve. Et maintenant, d'un côté, la douceur de cette voix, de l'autre, ses mains ficelées. Je crois être sorti de la vie, une fois pour toutes, mais c'est toujours aussi compliqué. Il appela une nouvelle fois. « Qui êtes-vous ? » La femme le regarda. Elle continuait sa chanson. Puis, après une dernière note brève, elle dit « Ils vont revenir. Le soleil est mou. Ils reviendront au soleil dur. Je te garde. Je fais la couture sur ton sac. » Toby écarquilla les yeux. « Ce n'est pas mon sac. C'est ma chemise. »« Chemise ? » répéta la femme en souriant. et elle se remit à chanter. La femme avait un vêtement bizarre. Elle portait juste une toile courte d'un rouge vif autour du corps. Elle paraissait assez jeune, mais Toby n'aurait pu dire son âge à 10 ans près. Peut-être qu'elle avait 20 ans, peut-être le double. Ses yeux se terminaient en fente sur les tempes, des yeux allongés comme une lumière sous la porte. La chanson n'était plus la même. C'était un air déchirant. Il n'y avait toujours pas de paroles. Pourtant, Toby comprenait chaque note qui semblait vouloir lui rappeler qu'il n'avait pas quitté le monde. Une telle nostalgie ne pouvait exister en dehors de la vie. Et toute cette vie retomba sur lui. Elle avait le poids d'une vieille armoire, le goût amer des punaises écrasées. La mort de ses parents, la trahison d'Elisha, il retrouva le chagrin comme il l'avait laissé. Ses larmes n'avaient pas non plus changé de goût. « Alors, je suis en vie ? » demanda-t-il. La femme ne l'entendit même pas. Il se rendormit. Quand il se réveilla, il faisait encore grand jour. Un chœur de 100 personnes murmurait autour de lui. Il ouvrit les yeux et le silence vint. Des hommes, des femmes, des enfants qui le regardaient silencieusement. Eux aussi étaient habillés de teintes lumineuses. Les tissus étaient plus ou moins larges, plus ou moins usés, mais toujours vifs et comme juste sortis des bassines de couleur. Un petit garçon, vêtu d'une ceinture jaune, s'était hissé au-dessus du groupe sur une tige d'herbe. Un homme âgé, dont la cape descendait jusqu'aux chevilles, dit aux autres « Ils envoient des soldats avec très peu de lin. » Tous les visages rayonnaient d'une grande compassion. Ils regardaient Toby comme un enfant malade ou condamné. « Il faut garder notre cœur dur. L'herbe est fragile. Elle est couchée par le vent. Elle brûle sous la neige. » Toby écoutait ces mots incompréhensibles. Il savait seulement, au regard de tous ces visages, penser sur lui qu'on ne lui ferait pas de mal. Ce monde dans lequel il s'était posé semblait ignorer la violence. La femme qui rapiéçait sa chemise fredonnait toujours sa douce plainte. Tous ses yeux dirigés vers Toby le soulevaient presque du sol. « Il faut garder notre cœur dur !» Mais ils gardaient leur regard tendre et leur paisible posture. L'enfant, sur son brin d'herbe, se laissa lentement glisser jusqu'au sol. Alors, le silence revint, et le vieil homme en bleu dit à Toby « Tu vas retourner là-bas, petit arbre. » Toby sentit ses yeux tourner sur eux-mêmes, sa langue se plaquer au fond de sa bouche. Quand il retrouva la force de parler, il dit « Retourner ? » Comment le destin pouvait-il s'acharner ainsi ? « Oui, petit arbre, l'herbe est fragile, et tu dois partir. Ton peuple a enlevé 9 d'entre nous, cette nuit. 12 autres à la dernière neige. Une femme, il y a 3 nuits. Ton peuple a tué une femme qui ramassait un peu de bois sur l'écorce du tronc à la frontière. » Toby se raidit encore une fois par terre. L'homme continuait. « Si ton peuple ne connaît que le langage des morts, ils comprendront cette langue triste. » Toby tenta de redresser son visage pour hurler. « Mon peuple ! Mon peuple me poursuit ! Mon peuple a tué mon père et ma mère ! Mon peuple m'a arraché, mes amis ! Il m'a couvert de sa haine ! Et maintenant, je paye pour lui !» Il se contorsionnait dans tous les sens, roulant dans la terre grasse qu'il n'avait jamais sentie ainsi contre lui. Enfin, il retomba, épuisé. Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Tuez-moi, sinon ils mourront, comme vous. Je viens de nulle part. Je n'ai personne. Je veux m'arrêter là. Tuez-moi. » « Tu as le petit éclair dans l'œil, petit arbre. Je sais que tu as souffert, » dit l'homme à la cape bleue, la gorge nouée. Une brume de tristesse couvrait tous les visages. L'éclair dans l'œil, cette trace infime sur la prunelle, était le signe de ceux qui avaient perdu leurs parents. Seul ce peuple sauvage savait déceler cette cicatrice du chagrin. En moins d'un instant, Ils se volatilisèrent dans la forêt d'herbes vertes. Toby resta seul. Il ne bougea pas. Il était couvert de boue. Dans l'arbre, la terre était une poudre rare qu'apportait le vent. On la recueillait dans le creux d'écorce. On en faisait des petits jardins ou des teintures. Mais ici, où donc pouvait-il se trouver pour qu'il y ait toute cette terre autour de lui? Toby entendit un petit sifflement et un bruissement sur le côté. Le petit garçon, habillé d'une bande de tissu jaune, apparut entre deux tiges. Il s'approcha de Toby, qui lui demanda, les yeux mi-clos, « Où on est ? Dis-moi où on est dans l'arbre. Pourquoi il parle d'un éclair dans l'œil ?» Le petit garçon ne répondit pas. Il se pencha au-dessus de lui. Avec le doigt, il retira la boue qui entourait les yeux de Toby. Il devait avoir 7 ans. Il avait un visage lunaire sous des cheveux en broussailles. Une couche de terre lui faisait comme des chaussettes, et tout son corps était d'un brun très clair. « Tu veux savoir où est ton arbre ? Regarde. » Tête de lune tapa dans ses mains. Une ombre énorme vint sur eux. Toby resta envoûté. Le petit garçon se mit à rire. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Toby. « C'est ton arbre ?» L'enfant rit de plus belle devant la mine de Toby, et il le rassura. « C'est l'ombre de l'arbre. Je sais quand elle se pose sur l'herbe le soir. Je sens, juste avant, un soupir froid derrière mes oreilles. L'ombre de l'arbre ? » Dans ce monde où l'oiseau l'avait déposé, l'arbre n'était qu'une ombre qui se posait sur l'herbe avant la nuit. L'arbre n'était qu'une planète lointaine qui éclipsait le soleil vers le couchant. Quand on s'en approchait trop pour ramasser un peu de bois ou chasser les termites, on risquait d'être emporté. L'arbre était une planète interdite à ce peuple de l'herbe. Il vivait là, pacifique, dans la rigueur de la prairie, dormait où il pouvait, dans des abris de fortune promis à la destruction aux premières intempéries. Oui, l'herbe était fragile, couchée par les tempêtes, brûlée par la neige, noyée par les pluies. C'était un peuple nomade, tout juste toléré par cette forêt d'herbe qui lui menait la vie dure. Si ceux de l'arbre se mettaient à les assassiner, ce serait la fin de ce modeste équilibre. En regardant son petit compagnon, dont la peau brune était couverte d'une fine pellicule de boue craquelée, Toby comprit pourquoi, dans l'arbre, on les nommait les pelés.